J'aimerais ce matin vous conduire dans un des psaumes. Il y en a passablement dans ce livre, qui est le livre des livres, qui est aussi la parole de Dieu. Et c'est le psaume 107 que je vous propose d'ouvrir. Nous ne pourrons pas tout étudier, bien sûr, ce matin, ce psaume, car le temps, bien sûr, nous manquerait pour le faire. Mais en introduction, sachez que c'est vraiment un appel à la louange. Un appel à la louange adressé au peuple de Dieu qui, bien sûr, à maintes reprises, a expérimenté le secours de Dieu. D'ailleurs, quand on prend ce psaume, dès le premier verset, même jusqu'au verset 3, on lit la chose suivante, psaume chapitre 107, du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Et je suis en face de tous ces rachetés que le Seigneur un jour a bien délivrés de la puissance, a bien des ténèbres pour nous conduire dans son admirable lumière. » Et puis quand on observe encore ce psaume 107, on arrive au verset 4 et même du verset 4 jusqu'au verset 32. Le psalmiste, comme pour raviver le souvenir de ses contemporains, de ses compatriotes, eh bien, il va rappeler quatre exemples de délivrance que Dieu a opéré à l'égard de son peuple. Et aujourd'hui, ce matin, je voudrais juste regarder avec vous l'un de ces quatre exemples que nous retrouvons dans ce psaume 107. Et pour ce faire, on va lire psaume chapitre 107, du verset 23 jusqu'au verset 32. Psaume chapitre 107, du verset 23 jusqu'au verset 32, on lit ensemble. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen et Amen. » Quel merveilleux témoignage, quel exemple formidable que nous venons de lire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre verset par verset ces 9 versets que nous venons de lire. Nous venons de lire ce qu'a été l'expérience de ces marins qui, à un moment donné, ont quitté la rive pour s'embarquer dans un navire et qui ont, à un moment donné, expérimenté le secours de Dieu lors d'une tempête qui les menaçait. Et l'histoire de ces marins, croyez-moi, nous concerne tous. Je m'adresse aux chrétiens ce matin. L'histoire de ces marins est quelque part l'histoire de tous les enfants de Dieu. Quand je prends le temps de relire avec vous les versets 23 et 24 qu'on a lus au départ, je les relis pour vous. « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Quand je lis ces deux versets, je ne puis m'empêcher de faire la comparaison avec le chrétien qui, à un moment donné de sa vie, lui aussi a quitté un rivage. C'est le rivage du péché. Et il s'est embarqué, alléluia, sur les grandes eaux avec Jésus comme capitaine. Qui ce matin a Jésus comme capitaine? Moi qui vous parle, je l'ai. Jésus est le meilleur des capitaines. Il est le meilleur aussi des guides. Jésus, eh bien, quand il prend en main notre vie, il nous tient par la main, est tel un berger, mais aussi un bon navigateur, va toujours aller nous conduire à bon port. Avec Jésus, nous ne sommes plus errants dans ce monde. Et vous savez quoi ? Avec Jésus, on sait où on va. Comment je rencontre des personnes et ne savent pas où elles vont ? Avec Jésus, eh bien, notre vie a un sens. Avec Jésus, on retrouve notre bon sens. Avec Jésus, on est dans la bonne direction, mes amis. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Avec Jésus comme capitaine, nous voguons sur la voie de la liberté, sur la voie de l'éternité. Avec Jésus comme capitaine, nous voguons sur la voie de l'amour et notre destination, c'est le paradis de Dieu. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs ? Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici présent en ce lieu qui effectivement vit cette vie ici-bas, cette vie terrestre, d'une manière errante, égarée, perdue. Je voudrais me permettre de prendre ce temps et ce matin te dire, aujourd'hui même, décide de quitter le port du péché et choisis Jésus pour diriger la barque de ta vie. Alors tout changera, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Et quand on a Jésus dans notre cœur, alors on va directement au port désiré, que Dieu soit béni. Mais là où je voudrais m'arrêter avec vous, c'est toujours au travers de ces deux premiers versets. On est toujours encore sur ces deux premiers versets que nous avons lus. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ces merveilles au milieu de la Bible. Ces deux versets m'interpellent encore. Ces deux versets sont aussi pour moi une belle image du chrétien qui décide de quitter, j'ai envie de dire, sa zone de confort. Il décide de mettre sa foi en action. Il décide aussi de sortir d'une vie chrétienne routinière et monotone pour aller où ? Sur les eaux de ce monde. Afin de faire quoi ? On l'a lu. Afin de travailler. Au verset 23, il travaillait sur les grandes eaux. Travailler ? Travailler, me direz-vous. Oui. Vous savez, quand on a connu, on a reçu le salut du Seigneur, c'est aussi pour que par la suite nous puissions travailler, oui déjà notre salut, mais travailler au royaume des cieux, frères et sœurs. Travailler entre autres aussi au salut des âmes perdues. Et il nous est dit au verset 24 que c'est dans cette condition précise que nous verrons véritablement les œuvres de Dieu et ses merveilles se manifester non seulement au dedans de nous, mais aussi parmi nous. Au moment où nous allons prendre nos embarcations spirituelles et travailler sur les grandes eaux. Les grandes eaux ici sont ni plus ni moins l'image de ce monde avec ses milliards d'habitants. Et Dieu nous appelle, oui au salut, mais il nous appelle aussi à travailler au salut des âmes perdues. Je crois que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Et il nous est dit au verset 24, ceux-là qui ont quitté la rive, ceux-là qui ont accepté d'embarquer avec le Seigneur Jésus comme sauveur, mais aussi comme maître, pour travailler au salut des âmes, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au beau milieu de l'abîme. Oui, au beau milieu de l'abîme de ce monde. Nous sommes en mesure de voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je vous pose une question. Voulez-vous voir la gloire de Dieu en 2018 ? Veux-tu, je personnalise la chose, veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta propre vie ? Veux-tu voir la gloire de Dieu en 2018 dans ta famille ? Veux-tu voir la gloire de Dieu bien même parmi tes amis et ton voisinage ? Voulons-nous voir les œuvres du Saint-Esprit se manifester avec force parmi nous ? Alors, excusez-moi l'expression, il nous faut quitter notre rocking chair spirituelle. Il faut le laisser et se lever et littéralement travailler avec passion pour le royaume de Dieu. Un jour, c'est Jésus qui a invité ses disciples qui se trouvaient sur l'une des rives du lac de Galilée, qu'on appelle d'ailleurs passablement mer de Galilée. Je peux comprendre pourquoi, pour y avoir été. Ce lac, il est immense. On n'en voit même pas l'autre rive. Et à un moment donné, Jésus va leur dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Parce que Jésus avait en vue, donc pour ses disciples, des choses merveilleuses, des expériences toutes nouvelles qu'ils allaient expérimenter dans l'autre rive. Mais pour cela, il fallait que les disciples puissent suivre Jésus dans une barque et en pleine eau. Vous savez, et écoutez-moi bien, l'année 2018 sera pour chacun d'entre nous exactement ce que nous aurons choisi d'en faire. Permettez que je redis ces choses. L'année 2018 sera pour chacun d'entre nous exactement ce que nous aurons choisi d'en faire. Et si nous décidons de laisser Jésus nous conduire, nous diriger, si nous obéissons à l'ordre du Seigneur, eh bien nous verrons, frères et sœurs, la gloire de Dieu. La Bible dit « À tes résolutions répondra ». J'ai entendu une ou deux voix le dire. « À tes résolutions répondra le succès ». Alors mon frère, ma sœur, proclame par la foi qu'en 2018, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent dans ta vie. Il faut que les choses changent dans ta famille. Il faut que les choses changent dans ton couple. Il faut que les choses changent dans ta vie spirituelle. Il faut que les choses évoluent. Je ne dis pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que les choses n'évoluent pas. Mais comprenez que le Dieu si grand que nous servons, eh bien que nous avons exalté ce matin au travers de ces merveilleux chants de louange, c'est un Dieu infiniment grand et qui a des projets encore plus grands, plus glorieux pour nous. Et il nous invite à pouvoir nous lever et aller plus loin et à passer, alléluia, avec lui, de l'autre bord. Une année, proclamez une année de grâce, une année de victoire, une année de combat que vous allez non seulement mener, mais remporter eh bien, par la grâce de Dieu. Alors qu'on était en train de louer le Seigneur, je cherchais un passage qui m'est venu à l'esprit, mais je voulais vous donner la référence. Psaume chapitre 129, je ne l'ai même pas donné à ma sœur qui se trouve au vidéoprojecteur. Ma sœur, tu me pardonnes ? Voilà, voilà une chrétienne. Psaume chapitre 129 du verset 1 à 4, il m'est venu à l'esprit. Et je veux le dire à quelqu'un ce matin. La Bible dit par la bouche du psalmiste, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise et que ce matin l'église d'Istre le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Quand je prends le temps d'avoir des entretiens, combien, eh bien, j'entends même quelquefois avec larmes des personnes qui ont été meurtries dès leur tendre enfance, ça c'est la méchanceté du diable. Mais il faut savoir à un moment donné se lever et sortir peut-être de notre confort ou assoupissement et dire Seigneur, il faut que les choses bougent. Et pour cela, il faut que je m'embarque avec le Seigneur en pleine eau par la foi et dire ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs, certes, ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste et il a coupé les cordes des méchants. Ce matin, le Seigneur, il veut couper les cordes. Ils sont des entraves et qui t'empêchent d'avancer. Décide de quitter ta zone de confort pour travailler en pleine eau dans les plans et les projets que Dieu a formés pour ta vie. Amen. On poursuit dans ce texte du psaume 107 et on arrive au verset 25. Un verset 25 qui est quand même contrariant. On lit ensemble psaume chapitre 107, le verset 25. Il dit « Et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. » Je dis que ce verset il est vraiment contrariant parce que les marins sont en pleine mer. Et ne voilà-t-il pas qu'une tempête vient remettre en cause leur résolution ? Vient stopper leur ardeur et leurs efforts. Et pour tout vous dire, et là on rentre dans le vif du sujet, la vérité, eh bien, c'est que nous connaissons tous un jour ou l'autre des tempêtes dans notre vie. Pour ça que s'il y avait un titre à donner à ce message, ce serait les tempêtes de Dieu. Même après des années de vie chrétienne, nous pouvons connaître des tempêtes dans notre vie. Pour faire plus simple, qui n'a jamais connu une tempête dans sa vie ? Il n'y a même pas un doigt qui se lève. Et si, ne soyez pas frustrés, si vous n'avez pas connu des tempêtes, il y en aura certainement à bien dans votre vie. Il y a un chant qui dit, à juste titre, « Dieu n'a pas promis à ses enfants un ciel sans nuages. » Par contre, il a promis d'être avec nous chaque jour et nous donner aussi, alléluia, une pleine victoire. Vous savez, souvent, quand on parle de tempête, on pense aux épreuves, on pense à l'adversité, l'adversité, on pense même aux attaques de l'ennemi. C'est une réalité. Quelquefois, le diable, tel une tempête, vient nous secouer. Ce qui a été donc le cas eh bien, de Job. Mais est-ce que vous avez lu, comme moi, ce verset 25 qui est des plus intrigants ? Nous lisons ensemble, il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Mais c'est qui ce « il » qui est fait mention ici ? C'est le diable ? Non, regardez bien le contexte. Il, ici, c'est Dieu. En fait, celui qui était derrière cette tempête, ce n'était pas le diable, c'est Dieu lui-même. Et peut-être au risque d'en surprendre plusieurs, il y a des tempêtes dans nos vies qui sont ni plus ni moins voulues et permises par Dieu. Non pas que Dieu cherche à nous nuire, car penser ainsi, c'est vraiment méconnaître notre Dieu. Dieu ne trompe personne. Dieu ne joue pas. Quelqu'un disait une fois, mais j'ai l'impression de me retrouver comme sur un jeu d'échecs. Et Dieu, frères et sœurs, chassez ces pensées viennent du diable. Il n'y a pas plus amour que notre Père céleste. Et nous avons bien choisi de miser, de compter, de nous réfugier en Dieu, parce que Dieu veut toujours notre bien. Mais il faut reconnaître quelquefois que Dieu permet des tempêtes dans nos vies, parce qu'il a un but bienveillant à notre égard, parce qu'il a un enseignement à nous apporter. Il a une instruction à nous communiquer, un travail peut-être même à opérer à notre insu au plus profond de nous-mêmes. La tempête, quelquefois, est le moyen pour Dieu de nous parler. Et j'ai mis là sur mes notes un exemple, c'est celui de Jonas. Jonas qui avait fui la volonté de Dieu et qui est parti s'endormir. Oui, lui était parti dans un navire, hein. Mais il était parti au fond du navire pour s'endormir et s'éloigner de la volonté de Dieu. Et Dieu a suscité la tempête pour éveiller l'assoupissement de son serviteur et pour finalement lui parler. Par la tempête aussi, Dieu va chercher à nous révéler qui nous sommes réellement, en nous plaçant finalement face à nous-mêmes, en nous poussant dans nos retranchements afin que nous puissions reconnaître quelque part eh bien, nos propres faiblesses, nos limites. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que moi qui vous parle, je me connais? On se connaît en partie. Vous savez, si Dieu prenait le temps de s'asseoir avec nous, il nous parlerait des choses qui nous concernent et qui réjouiraient notre cœur. Vous savez, quand quelqu'un nous arrive à viser juste sur notre personne, on est réjoui. C'est notre cœur, notre âme, personnellement, qui répond. Dieu, d'une manière exponentielle, pourrait nous parler de nous en fond en comble. Mais c'est nous-mêmes qui ne nous connaissons pas. Et nous avons besoin de nous connaître. Nous avons besoin de réaliser nos faiblesses et nos limites. C'est ce que, finalement, nous expliquent les versets 26 et 27. C'est les versets suivants, toujours le psaume 107, au verset 26 et 27. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Je ne sais pas si vous avez remarqué les verbes qui ont été utilisés. Monter, descendre. Est-ce que ce n'est pas le propre de l'homme? Aujourd'hui, tout feu, tout flamme, on est prêt à casser la baraque. Et puis demain, parce qu'il y a eu un coup dur, mais ça c'est le propre de l'homme. Eh bien, il n'y a plus personne. On est tellement inconstant. Et je dis, nous sommes tellement inconstants. Nous sommes tellement fragiles, c'est le propre de l'homme. Nous sommes encore avec cette nature pécheresse, bien que nous sommes potentiellement de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et à cela, nous avons besoin de nous réfugier dans la personne du Seigneur. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Les vertiges du doute, vous les connaissez? Ces hommes étaient habilités à la mer. Mais là, cette fois-ci, cette tempête les dépassait. Et tout était anéanti, le doute, quand le doute vous prend, quand le doute vous donne à boire la tasse, quand le doute vous donne même à ne plus ouvrir la bouche et même à prier, à se décourager. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Toute leur habileté était anéantie. Dieu veut vraiment, et s'il faut l'apprendre au travers des tempêtes, il le fera. Dieu veut vraiment que nous apprenions à ne pas compter sur nos forces, mais sur celles du Saint-Esprit. Surtout lorsqu'il s'agit de servir Dieu. On ne sert pas Dieu avec nos forces. On sert Dieu avec la capacité que nous accorde le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Paul, en son temps, va aussi déclarer cette vérité de Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Je vais vous lire ce verset dans la version Parole de vie de Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et la version Parole de vie dit, nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose tout seuls. Mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. Pour servir Dieu, il faut qu'on soit totalement dépendant de Dieu. Il faut que nous reconnaissions qui nous sommes. Il faut que nous reconnaissions notre faiblesse. Il faut que nous acceptions que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire de valable, d'efficace aux yeux de Dieu. Il nous faut être les uns et les autres dépendants de Dieu. En fait, Dieu permet la tempête dans nos vies pour que nous reconnaissions que nous avons constamment besoin du secours et de la grâce, de Dieu. Que pouvons-nous dire encore des tempêtes que Dieu nous envoie ? La tempête est aussi le lieu où notre foi est travaillée, notre foi est épurée. Notre foi, j'ai envie de dire, est sanctifiée, autrement dit, mise à part. Elle est affermie. Et souvent, ce travail, le Seigneur le fait, eh bien, quand quelquefois, il envoie des tempêtes dans nos vies. Je me rappelle cette fameuse tempête qui m'a amené bien des nuits, alors que j'étais avec mon frère, eh bien, dans la même chambre, le soir, parce que je voulais pas que quelqu'un me voie. Eh bien, dans cette situation, discrètement, je glissais, je sortais du lit et je passais une bonne partie de la nuit à supplier Dieu. Ce n'était pas un jour, ce n'était pas deux jours ou trois jours. J'étais comme devant une impasse. Et la souffrance me poussait à pouvoir prier. Mais mes amis, j'étais à des lieux de soupçonner ce que Dieu était en train de faire, eh bien, parallèlement dans ma vie personnelle. Il travaillait ma foi, il travaillait ma persévérance, il travaillait ma patience. J'ai compris un peu plus ce que cet homme a su dire. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Et il y a un travail qui se fait, on ne comprend pas pourquoi les choses perdurent. Mais on est là et on est dans la patience. Seigneur, tu ne m'as jamais fait défaut et tu continueras à être ce Dieu fidèle. Ce qui explique ce qu'a dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1, les versets 2 et 3, et je me permets de le relire. Mes frères, finalement, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, j'ai envie de dire les diverses tempêtes auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. Et puis après la patience, la persévérance. Et d'autres fruits qui vont commencer à s'exhaler de notre personne. Je ne veux pas être long ce matin. Après le verset 27, je reviens au psaume 107. Il y a bien sûr le verset 28. Et pour moi, le verset 28, c'est le verset clé de toute cette histoire au final. Et ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, cette même phrase qui revient mot pour mot dans les quatre exemples de ce psaume, nous le lisons au travers de ce verset 28. Dans leur détresse, parlant de ces marins, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Mon frère, ma sœur, dans ta détresse, au cœur même de ta tempête, qu'elle vienne de Dieu ou qu'elle vienne du diable, tu es en mesure de pouvoir crier. On a compris que ce n'est pas une question de décibels, mais crier, c'est dans le sens exprimer, implorer le secours, la grâce de Dieu. C'est une question de décibels au niveau de la foi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra, excusez-moi, de leur angoisse. Notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui est un véritable secours, qui ne manque jamais dans la détresse, nous dit la parole de Dieu. Il y a ce passage que vous connaissez mieux que moi, certainement, en psaume 34 et le verset 7, qui nous dit la chose suivante. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses quelques détresses. De toutes ses détresses, qu'elles soient physiques ta détresse, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient émotionnelles. Dieu est en mesure de pouvoir te délivrer, mon frère, ma sœur. Crois-le et vois-le s'accomplir pleinement dans ta vie. Si dans votre propre détresse, vous faites appel à Dieu, ce dernier agira tôt ou tard. Il agira comme il l'a fait pour ses marins et on le lit aussi à partir du verset 29 et les versets 29 et 30. Regardez ce qu'il écrit, psaume 107, versets 29 et 30. Il arrêta la tempête. Ça, c'est le miracle de Dieu. La même tempête qui est venue nous effrayer, la seconde après notre prière, elle s'en va. Ou on va dire la minute, ou peut-être même la semaine suivante, ou peut-être même l'année, ça dépend du temps de cuisson. Que fois la tempête, elle est nécessaire pour faire éclore un véritable gâteau succulent, a bien dans nos vies. Il arrêta la tempête, le miracle vient, il ramena le calme et les ondes se turent. Ça nous parle de paix. Et quand la tempête vient, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup des ondes, les ondes qui viennent, les flots de la mer qui viennent, ce sont ces pensées qui nous empêchent même quelquefois de dormir. Toutes ces choses s'en vont et la paix et la quiétude de Dieu viennent nous habiter. Ils se réjouirent, finalement la joie revient, la joie du salut, la joie de savoir qu'on a le meilleur des maîtres. Frères et sœurs, quand les gens s'inquiètent de 2018-2019, pour ça je disais à quelqu'un qui n'est pas là ce matin, je dis on n'a pas bien à s'évertuer dans la politique ou dans notre combat. Notre combat, eh bien, nous le menons avec le Seigneur. Et d'ailleurs, on connaît même l'issue, parce que Jésus reste toujours le vainqueur. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré, et ça nous parle bien sûr de victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Ce matin, proclame la victoire. Frères et sœurs, si tu crois ces choses, si tu les reçois de la part du Seigneur, tu peux voir ce déclic se manifester. C'est à l'écoute de la parole. Il y a dans ce même chapitre 107, il nous est dit, eh bien, Dieu envoya sa parole et il les guérit. C'est l'acceptation de cette parole. C'est l'ouverture de notre cœur face à l'écoute de la parole qui va susciter la foi, parce que la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que puis-je dire en conclusion ? Je m'adresserai avant tout à peut-être une personne qui ne connaîtrait pas Jésus. Accepte, je t'en supplie de grâce, ce Seigneur dans ta vie, dans ton cœur. Accepte aujourd'hui qu'il devienne le capitaine de la barque de ta vie. Tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais ce choix sera le choix le plus important de toute ta vie. Et puis pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus, eh bien durant cette année 2018, osons quitter notre zone de confort spirituel. Et en retour, acceptons de voguer par la foi, en pleine eau, dans le service que le Seigneur nous confie. Et même si quelquefois Dieu permet des tempêtes, on l'a lu, on l'a vu ensemble, on l'a partagé ensemble. Ce sera toujours un bien pour notre bien, frères et sœurs. Parce que le Dieu que nous servons, qui est devenu notre Père, est un Dieu plein de bonté. Et si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père céleste sera nous donner tout ce dont nous avons besoin, à commencer par son Esprit Saint. Si Dieu permet des tempêtes dans nos vies, nous l'avons vu ensemble, c'est toujours pour que cela puisse concourir à notre bien, mais aussi que cela puisse également susciter en nous de la louange et de la reconnaissance à son égard. Regardez les deux derniers versets, les versets 31 et 32, ce qu'il est dit, ce que le psalmiste encourage le peuple juif à pouvoir faire, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a loué le Seigneur. Seigneur, peut-être je ne comprends pas tout de ce qui m'arrive. Je ne sais pas là où tu veux me mener, mais j'ai confiance en toi. Alors il ne me reste à faire qu'une seule chose, à pouvoir te louer, à pouvoir t'adorer. Et je le fais de tout mon cœur, parce que tu es ce Dieu fidèle et qui me mènera jusqu'au bord, au port désiré. Et ce port désiré, c'est ce paradis que Dieu a préparé pour nous. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Prions ensemble le Seigneur. Nous te remercions encore pour ces exemples. Et c'est vrai, c'est le temps qui nous manquerait pour découvrir les trois autres exemples. Tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Et tu attends que nous soyons réceptifs à ta parole, pour qu'elle puisse faire germer, Seigneur, la foi nécessaire pour voir ton bras se mouvoir. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Et quand tu la vois dans un cœur, Seigneur, mon Dieu, tu te manifestes. Ton bras est assez puissant, Seigneur, pour créer la tempête, mais aussi pour la calmer. Ton bras est assez puissant, Seigneur Père, mon Dieu, pour nous donner, Seigneur, à être victorieux sur tous nos ennemis. Ton bras est assez puissant pour nous transformer et nous donner, avoir plus que jamais du zèle pour entrer dans cette année 2018, plus que jamais avec une ardeur nouvelle, pour, Seigneur Père, te servir et servir, mon Dieu, la cause du meilleur des maîtres. Seigneur, bénis l'Église d'Istres. Donne-nous à aller plus loin. Seigneur, réveille-nous. Fais-nous grâce, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Père, quand, Seigneur, nous avons pris du retard. Le bateau est là et tout comme tes disciples, tu nous dis, passons à l'autre bord. Seigneur, mon Dieu, moi le premier, viens encore, Seigneur. mais le vouloir et le faire dans nos cœurs. Viens encore nous réveiller. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, la nuit est là, mais l'aurore vient. Ou bientôt tu viendras faire la distinction entre le juste et le méchant, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Seigneur, nous ne voudrions pas, Seigneur, être confus quand tu reviendras. Mais Seigneur, être parmi les rachetés, être parmi les élus, qui seront, Seigneur Père, recevoir la louange en retour de ta part. Ô Seigneur, bénis notre Église, bénis nos cœurs, bénis nos familles. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce et aide-nous à aller plus loin. Je te prie encore particulièrement pour ceux et celles qui connaissent des moments difficiles, ceux et celles qui sont dans la peine, ceux et celles qui sont dans la tourmente, ceux et celles qui sont ballottés par les flots de la mer. Seigneur mon Dieu, accorde-leur, Seigneur Père, à réaliser que tu es au milieu de la tempête avec eux. Et que bientôt, en ton temps, Seigneur, car tu fais toutes choses belles en ton temps, tu sauras leur accorder une pleine délivrance. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à les réaliser. Père, dans le nom de Jésus. Amen.